Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Aung San Suu Kyi reste en résidence surveillée alors que la contestation contre le coup d'État de l'armée birmane du 1er février dernier est toujours réprimée dans le sang. La comparution de la dirigeante pro-démocratie devant la justice prévue aujourd'hui a de nouveau été reportée. Elle est toujours dans la résidence d'où elle dirigeait de facto le pays avant le coup d'État sanglant du 1er février. Des fonctions qui l'ont mise dans une position délicate et qui ont mis à mal son aura en raison de son inaction dans la crise des Rohingyas, la minorité musulmane victime de génocide selon les Nations Unies. L'armée birmane est-elle en train de refaire une icône démocratique d'Aung San Suu Kyi? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui par téléphone. Distanciation oblige. Bénédicte Braque de la Perrière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, spécialiste de la Birmanie, chercheuse au CNRS, au Centre Asie du Sud-Est. Et également Sophie Boisseau-Durocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Et enfin, Frédéric Debomy, bonjour. Vous êtes scénariste de bande dessinée et écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur la Birmanie, entre autres Aung San Suu Kyi, Rohingya et extrémistes bouddhistes. Les dessins sont de Benoît Guillaume, c'est aux éditions Masso, et vous travaillez depuis une vingtaine d'années avec le mouvement démocratique birman. Bénédicte Braque de la Perrière, que sait-on aujourd'hui de la situation d'Aung San Suu Kyi?
Eh bien, on n'en sait pas grand-chose, puisque depuis le 1er février, elle est en résidence surveillée et que personne, à ma connaissance, n'a de contact avec elle. On a eu quelques informations à l'occasion de ces deux comparutions. Elle a été mise en accusation par la junte birmane pour d'abord des raisons assez futiles, la possession de talkie-walkie qui serait en infraction avec la loi sur les importations, sur le fait la tenue de réunions en période de Covid, de réunions électorales, et enfin le plus important et ce qui est reproché, enfin ce qui est le prétexte pour inculper la plupart des personnes qui sont en ce moment arrêtées, l'inculpation de trahison.
Trahison, c'est-à-dire
d'incitation à la non-obéissance au gouvernement militaire, à l'administration militaire.
Très bien. Sophie Boisseau-Durocher, que risque Aung San Suu Kyi exactement avec ces accusations? Quelle est la peine encourue?
Ah, écoutez, elle risque de retourner en prison, donc ça sera probablement une fin de carrière qui sera très pénible pour celle qui a quand même aidé les Birmans à relever la tête.
Vous voulez dire en prison, pas seulement en résidence surveillée, dans une vraie prison?
Absolument, dans une vraie prison. Donc voilà, la trahison est punie de prison, au moins. Donc voilà, donc elle risque gros, elle risque surtout d'être obligée de faire peut-être l'ultime sacrifice de sa vie, c'est-à-dire d'abandonner la politique et la LND.
Frédéric Debomy, les membres de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, que vous connaissez évidemment, puisque vous avez travaillé avec le mouvement démocratique birman depuis une vingtaine d'années, ils sont dans quelle situation? Est-ce qu'il y en a qui sont encore en action, si j'ose dire?
Eh bien, justement, c'est un aspect important de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu des arrestations, hein. Il y a donc eu ce coup d'État ou coup de force militaire le 1er février, mais tout le monde n'a pas été arrêté. Et en fait, le 5 février, donc assez vite, des élus du Parlement, donc élus en novembre dernier, 17 élus, en fait, pour être précis, dont une quinzaine étaient de la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi, ont fondé à l'initiative de Piu Piu Tin, qui est elle-même membre de la Ligue nationale pour la démocratie, un comité représentatif du Parlement, le CRPH. Et ce CRPH est aujourd'hui adoubé par la rue birmane comme étant la représentation légitime de la population birmane dans le monde, la seule représentation légitime du pays à leurs yeux. Et en fait, dans les manifestations tous les jours, ou presque tous les jours, on voit surgir dans l'espace public birman, à l'initiative des manifestations, ce sigle CRPH. On voit beaucoup, évidemment, la demande de libération du président et de la conseillère qui est Aung San Suu Kyi, qui était la véritable chef de gouvernement, mais on voit aussi beaucoup CRPH. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Les Birmans souhaitent que les élus emprisonnés, et notamment les deux leaders, soient libérés. Ils demandent que dans l'intervalle, ce comité soit considéré dans le monde et par les États du monde entier comme la représentation de la Birmanie aujourd'hui. Et non, les auteurs du coup d'État.
Alors, il faut le dire, le rappeler, Bénédicte Brac de la Perrière, l'une des principales accusations, enfin, la justification, si on peut dire ainsi, du coup d'État de la part de l'armée, c'est des accusations de fraude électorale aux élections législatives du mois de novembre où la LND, la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi, avait remporté 83% des sièges mis en jeu.
Des sièges, oui. Effectivement, c'est la principale accusation là, qui a été invoquée par la junte militaire. Depuis les élections, on a vu monter donc une tension autour du résultat des élections, qui évidemment était un camouflet énorme pour l'organe politique des militaires, qui est l'USDP, l'Union pour la solidarité et le développement. Ce parti, donc, qui est celui qui représentait les militaires, a obtenu encore moins de voix qu'aux élections précédentes. Et donc, c'était un coup assez fort pour les militaires, mais il y a aussi des tensions qui se sont développées pendant toute la mandature précédente autour de questions de constitution, notamment, puisque un des objectifs principaux du gouvernement dirigé par Aung San Suu Kyi était d'arriver à obtenir des accords de paix avec les groupes minoritaires et que cela nécessitait donc une modification de la constitution en faveur de plus de fédéralisme. Mmh. Cela, et puis un ensemble de questions, et notamment la question aussi du mode de scrutin, qui accorde donc à celui qui gagne l'ensemble des positions et que voulaient réviser les militaires en faveur de plus de représentation. Ces tensions donc diverses se sont accumulées pendant toute la mandature. Et alors que de l'extérieur, on pouvait avoir l'impression que Aung San Suu Kyi soutenait les militaires, en fait, la tension n'a pas cessé d'augmenter pendant toute cette période.
Alors, Sophie Boisseau du Rocher, on le comprend à ce que vient de dire Bénédicte Brac de la Perrière, c'est que ce coup d'État, il était un peu en préparation depuis le mois de novembre, la tension montait. Est-ce que Aung San Suu Kyi n'a rien vu venir ou est-ce qu'elle a voulu faire un acte politique en montrant quelque chose, en laissant l'armée faire son coup d'État?
Écoutez, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Ce que je crois, c'est que effectivement, comme l'a bien expliqué Bénédicte, les tensions se sont formalisées, cristallisées au fil de la mandature précédente, et que l'armée savait que ses avantages constitutionnels, étaient en danger. Et donc, il fallait faire vite. Le scrutin de novembre dernier n'a fait que confirmer cette intuition et les premiers signaux ont en fait été lancés assez rapidement, c'est-à-dire dès le mois de décembre, où effectivement l'armée a contredit les résultats en disant que certains bulletins n'étaient pas, il y avait eu des bulletins faux qui avaient été ajoutés et que donc les résultats n'étaient pas justes. Alors, à partir de ce moment-là, la position de la LND et de Aung San Suu Kyi a été très claire, c'est que des observateurs birmans et étrangers ont validé le scrutin. Et donc, on n'allait pas perdre de temps à réviser, si vous voulez, revoir, vérifier les résultats. Et c'est évidemment, ça a été perçu comme un camouflet supplémentaire pour l'armée qu'on ne prenait pas, entre guillemets, au sérieux et qui a donc agi avant que le Parlement élu ne se réunisse pour la première fois le 1er février. Alors, est-ce que elle aurait pu parer cet ultime coup? Je crois qu'elle l'a pas vu venir parce qu'elle a été, je crois, enfin, que le plébiscite était tellement fort qu'elle s'est dit que les militaires n'allaient pas oser. Et les militaires ont d'ailleurs eu une position relativement ambivalente puisque encore à la fin du mois de janvier, ils ont dit qu'ils n'interviendraient pas par la force et qu'ils respecteraient la Constitution. Voilà, donc ils ont troublé les jeux et effectivement, on est arrivé à cette situation dramatique.
Donc Frédéric de Baumy, elle a quand même eu le temps d'appeler ses partisans à résister au coup d'État.
Je suis pas sûr en fait de ça. J'ai pas fait l'ultime vérification, mais quand on m'a dit qu'elle avait appelé la population à la résistance, j'avais quand même un doute parce que Aung San Suu Kyi n'a jamais incité les gens à manifester en fait. C'est pas quelque chose qu'elle fait. Et donc j'ai un doute sur la véracité de cet appel. Mmh. Mais le fait que mes deux collègues ont regardé de plus près si cet appel était authentique. Moi, j'ai un doute, mais enfin, poursuivez.
On va en parler avec vos deux interlocutrices, mais les manifestants qui résistent très courageusement et malgré une répression sanglante depuis le 1er février, les manifestants, est-ce qu'ils se réfèrent toujours à elle? Est-ce qu'elle reste un point de repère, bien que d'autres émanations du mouvement démocratique commence à se faire jour, comme vous le disiez.
Eh bien justement, oui, c'est un point très intéressant parce que Aung San Suu Kyi a des mérites, mais elle a aussi des défauts, et notamment, elle a du mal à déléguer, elle a un autoritarisme certain, et tout ça n'a pas permis de faire émerger en fait des figures, ne serait-ce qu'au sein de son propre parti, en tout cas difficilement. Or là, elle est hors jeu. Et du fait qu'elle soit hors jeu et du fait qu'il faille faire sans elle, je parlais du CRPH, ce comité fait un travail politique absolument fantastique, hein, dans un laps de temps qui n'est que de quelques semaines. Et notamment, on a son émissaire sans doute le plus visible aujourd'hui, Sasa, qui est un Chine. C'est important parce qu'en Birmanie, la question des minorités est importante, qui dialogue, le CRPH dialogue, avec les groupes armés des minorités, avec des représentants des Rohingyas, les Rohingyas qui étaient rejetés en fait par la population birmane il y a encore peu. Il y a un travail là d'unité, de faire que le pays soit uni contre son oppresseur de longue date, qui est l'armée birmane, qui est vraiment, vraiment assez impressionnant. Et donc on voit surgir, je parlais de Sasa, c'est un bon exemple en fait de figures qui surgissent dans une circonstance où Aung San Suu Kyi n'est plus aujourd'hui aux manettes. Et donc, par ailleurs, dans les manifestations en Birmanie même, il y a cet appel à la libération d'Aung San Suu Kyi et d'autres, mais il y a aussi, c'est aussi un mouvement sans leader, j'ai envie de dire. En 1988, il y avait un mouvement important qui avait été initié et mené très largement par les étudiants de l'époque. En 2007, il y a eu un autre mouvement important, c'était les moines, après des activistes politiques qui dirigeaient ce mouvement. Là, on a quelque chose où, en fait, les idées viennent de partout, elles sont mises en application partout, et donc il y a une société entière là qui rivalise de courage, d'un courage extraordinaire, il faut vraiment le dire, et d'une inventivité permanente, et aussi d'une acuité politique qui est assez impressionnante. Moi, je connais des Birmans politisés, bien sûr, mais je connais aussi des Birmans qui ne l'étaient pas, ou pas trop. Et là, je vois notamment sur les réseaux sociaux à quelle acuité politique ils parviennent, et c'est tout ça est pour le coup dans une situation qui est souvent dramatique, inquiétante et terrifiante. Il y a quand même là une société en mouvement formidablement capable. Et donc ça, c'est quelque chose qui est encourageant.
Bénédicte Braque de la Perrière, est-ce que son image a souffert de son inaction pendant la crise des Rohingyas sur le plan intérieur, ou est-ce que le soutien finalement était toujours le même de la part de la population, comme le laissent entendre les résultats des dernières législatives ?
Son image n'a pas souffert sur le plan intérieur de la crise des Rohingyas. Quelques critiques ont commencé à se faire jour du fait d'une lenteur dans les réformes, de la difficulté à faire aboutir ce processus de Panlong 21e siècle, qui est un processus en fait qui vise Panlong, c'est l'accord qui a été signé par Aung San, son père, en 47 avec les minorités minorités ethniques sur le type de régime politique qui pouvait donner une place donc à ces minorités ethniques et notamment sur le fédéralisme. Donc, comme vous le savez, la Birmanie a été en guerre perpétuelle depuis son indépendance avec ses différentes composantes et notamment les minorités ethniques et un des enjeux de la gouvernance Aung San Suu Kyi était de signer un accord de paix durable avec ces minorités ethniques à travers donc une réforme de la Constitution qui ferait plus de place au fédéralisme, comme je le disais tout à l'heure. Or, cela a été complètement empêché par l'action des militaires, notamment pendant cette période. Et donc, les accords ont fait du piétinement, ils n'ont pas du tout avancé. Par ailleurs, la question sociale est aussi une question importante. La question foncière a été extrêmement importante et les choses n'ont pas avancé pendant cette mandature vraiment. La liberté de la presse a plutôt été réduite. Donc, il y avait un certain nombre de critiques qui se levaient. Mais ce qui est important dans le vote de novembre, c'est que malgré les critiques, la seule option pour les Birmans, c'était Aung San Suu Kyi. Sa position, enfin sa défense de la Birmanie à La Hague a été très bien perçue au niveau intérieur. Et donc, le soutien à l'intérieur est plus politiquement averti, je dirais, mais tout aussi fort qu'il l'était. Et surtout, c'est un soutien qui permet d'éviter les militaires, et c'est ça qui compte.
Sophie Boisseau du Rocher, cette période, en revanche, clairement, vous allez peut-être me détromper, hein, a clairement terni son image à l'international. Des voix se sont même élevées pour demander de lui retirer son prix Nobel de la paix reçu en 1991. Est-ce que l'armée birmane, en faisant ce coup d'État, comptait quelque part sur un moindre soutien international ?
Ah, peut-être, et c'est pas impossible. Ce qui n'est pas impossible, c'est que en enclenchant quand même les tensions dans l'État Rakhine, l'armée espérait, je dirais, gêner la conseillère d'État qui, je le rappelle, n'avait pas vraiment accès à ce territoire, puisque l'armée, par des mesures constitutionnelles, garde le contrôle des ministères de la Défense, des Affaires intérieures et des frontières. Et donc, si vous voulez, la situation sur place était vraiment gérée par l'armée, ce qui fait que la marge de manœuvre d'Aung San Suu Kyi était très limitée. Il faut se rappeler également que la conseillère d'État avait engagé un processus de consultation par le biais d'un comité consultatif sur l'Arakan en août 2016, c'est-à-dire 3 mois après sa prise de pouvoir. C'était quelque chose de très symbolique parce que ça permettait de déclencher, si vous voulez, une réflexion sur l'intégration de ces Rohingyas dans la communauté nationale. Vous savez, le problème des Rohingyas est un problème énorme, c'est un problème récurrent depuis l'indépendance, qui est arrivé, je dirais, avec les Britanniques, avec la colonisation britannique. Ce n'est certainement pas, comme l'espèrent peut-être les Occidentaux, du jour au lendemain qu'il va être réglé sur place. Donc, Aung San Suu Kyi avait l'habitude de dire que quand les problèmes sont tellement gros, il faut les réduire avant de les aborder. Donc, je crois que son souci, quand elle a lancé ce comité consultatif confié à Kofi Annan, c'était précisément de réduire le problème. Et évidemment, le rapport du comité a été rendu une semaine avant le début des tensions. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là, si vous voulez, une concomitance qui est un peu surprenante? Est-ce que les conclusions de ce rapport n'ont même pas été débattues, elles ont été enterrées directement? Voilà, donc il y a là, si vous voulez, quand même des réflexions et effectivement, l'opprobre général de la communauté internationale a certainement fait plaisir d'une certaine façon à l'armée, puisqu'elle pensait que l'idole, l'icône créée par les Occidentaux allait enfin souffrir. Ce qui est sûr, c'est comme l'expliquait Bénédicte à nouveau, c'est que le fait qu'elle aille elle-même à la haie pour défendre son pays, a été très bien perçu sur place.
Frédéric de Bobigny, la situation et cette répression sanglante, hein, les derniers chiffres font état d'au moins 275 morts, et on est sans doute loin du compte. Est-ce que cela a relancé le soutien dont Aung San Suu Kyi bénéficie à l'international? Est-ce qu'elle est en train de redevenir, pour la communauté internationale, la dame de Rangoon?
Il y a un soutien, il y a un appel à sa libération qui vient de partout, hein. Et d'ailleurs, il y a des parties du monde qui sont plus critiques vis-à-vis du régime militaire, quoi, du pouvoir militaire que par le passé. Donc oui, il y a un appel général à sa libération. Mais alors dire si il y a un regain d'estime, je ne sais pas si c'est des appels à sa libération parce qu'elle est en fait la personne qui devrait être en fonction, mais est-ce que son image y regagne? Ça, j'avoue que je ne m'aventurerai pas sur ce point. Par contre, j'en profite pour dire une chose, puisque je reviens beaucoup au fait que la rue birmane, elle, et son représentant, ses représentants choisis s'expriment. On parlait des élections. Les auteurs du coup d'État, aux dernières nouvelles, veulent toujours faire de nouvelles élections dans un an. Sous le contrôle d'une commission électorale qui a été remaniée et qu'il maîtrise entièrement. Donc évidemment, c'est une chose qui est entièrement rejetée par une population birmane unie, et il y a la crainte que certains acteurs internationaux soient tentés d'un pragmatisme qui, pour le coup, serait complètement à côté de la plaque, en fait, d'essayer d'avaliser le scénario des généraux en disant il faut que l'approche diplomatique prévale, mais en fait, c'est quelque chose qui ne sera pas accepté par la population, et puis en fait, il n'y a pas à refaire ces élections. Donc tout ce qui doit se passer maintenant, c'est en fait un isolement populaire, il est déjà certain, un isolement diplomatique, il y a des éléments qui vont dans le bon sens, et un isolement aussi financier de ce régime.
Bénédicte Braque de la Perrière, il y a eu aujourd'hui des libérations de personnes arrêtées pendant les manifestations, comment est-ce que vous l'interprétez ?
Ça, c'est le jeu des militaires qui arrêtent d'abord pour terroriser, qui interrogent aussi. Dans toute la gestion des crises précédentes, et il y en a eu un certain nombre, on a ces développements où l'armée commence par regarder ce qui se passe, regarde où sont les têtes, puis arrête, fait peur en tirant sur la tête de certaines personnes prises apparemment au hasard, mais arrête aussi et puis interroge sur qui sont les leaders pour aller encore une fois arrêter les personnes susceptibles d'emmener le plus la population, et donc à certains moments, ben, il faut qu'ils libèrent des places dans les prisons aussi. Ils l'ont fait d'abord, ils ont d'abord libéré les prisonniers de droit commun le 12 février pour faire de la place, et donc ils libèrent, mais sous condition, la plupart du temps, ils libèrent sous condition de ne plus s'engager contre le gouvernement militaire. Bon, là, j'ai pas les détails exactement, mais ça ressemble beaucoup à ce qui s'est fait précédemment en Birmanie.
Oui. Sophie Boisseau-Durocher, Est-ce qu'on se trompe si on dit qu'Aung San Suu Kyi reste un problème pour l'armée birmane, même arrêtée, même à 75 ans? Est-ce qu'on peut dire que l'armée la craint, tout simplement?
Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'elle est la bête noire de l'armée. Et depuis, je dirais, depuis son fameux discours à la pagode Shwedagon en août 88. Donc c'est véritablement un personnage symbolique qui a une portée très forte dans l'imaginaire et dans la construction politique birmane. Et donc, à ce titre, l'armée la craint encore. Maintenant, je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce que va tenter de faire l'armée, c'est de lui retirer son emprise sur les jeux politiques, c'est-à-dire ou par une assignation à résidence ou plus probablement par un emprisonnement, de la rendre impuissante. Et à nouveau, ça sera vraiment un ultime sacrifice pour elle. Ce qui me semble, c'est qu'en même temps, c'est peut-être une bonne chose aussi pour l'avenir de l'action politique dans le pays, parce que ça va libérer des énergies, ça va libérer de nouvelles personnes qui vont s'engager, et donc le mouvement sera certainement un mouvement plus diffus, mais qui la vraie difficulté à ce moment-là, ça va être de trouver une direction commune, puisque l'armée aurait tendance à diviser les forces politiques pour pouvoir les affaiblir, et la grande force d'Aung San Suu Kyi a été précisément de réunir derrière elle, et ça, il faudrait pas que cette logique-là soit trop entamée, parce que les militaires en joueraient à leur profit.
Frédéric de Baumy, c'est ce que vous nous expliquiez pratiquement tout à l'heure, le mouvement pro-démocratie est en train de se disséminer à plusieurs personnes par capillarité, si je peux dire, avec ces nouveaux représentants. C'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose, selon vous, ou est-ce que c'est un signe de désunion plutôt?
Non, il y a vraiment là un phénomène d'unité qui est particulièrement marquant en ce moment. Dans le cas d'Aung San Suu Kyi, il y a des paradoxes en fait. Elle avait fait effectivement ce fameux discours à la pagode Shwedagon en 1988 qui marque véritablement son entrée en politique. Et dans ce discours, ce n'était pas le seul sujet, mais elle insistait sur la nécessité de l'unité et la nécessité pour les Birmans, c'est-à-dire le groupe social majoritaire, pour aller vite, deux tiers de la population, de prendre en compte les desiderata du reste de la population qui sont donc un tiers à peu près de minorités plus ou moins importantes. Mais finalement, ces dernières années, elle n'a pas toujours favorisé l'unité. Par exemple, il y avait des ordres donnés aux parlementaires, enfin aux représentants de son parti en région, de couper les liens le plus possible avec les organisations de la société civile sur place. Donc ça, c'était quand même assez sidérant. Voilà. Donc on est aujourd'hui, quand on voit, je parlais de Sasa aujourd'hui, quand on voit les discussions du CRPH avec tout un ensemble d'autres acteurs de la scène politique birmane, là je vois une qualité de dialogue qui est vraiment quelque chose d'encourageant. Par ailleurs, pour la rue birmane de manière plus diffuse, plus large, les changements de perception sur la question des Rohingyas notamment, même si il faut être prudent et voir jusqu'où ils seront, mais en fait il y a quand même quelque chose qui bouge vraiment, et de la part du groupe majoritaire birman, c'est un vrai changement qui s'applique aussi aux autres minorités dont les souffrances de longue date en fait sont me semble-t-il davantage perçues. Donc là il y a vraiment quelque chose qui se cristallise avec une conscience nette, claire, qui n'est pas nouvelle, mais qui est renforcée, que tout le monde a un même problème, qui est le règne militaire.
Bénédicte Braque de la Perrière, il nous reste très peu de temps, je vais vous demander de répondre rapidement à cette question. Comment est-ce qu'on interprète les reports successifs de la comparution en justice d'Aung San Suu Kyi? L'armée ne sait pas quoi en faire?
C'est une manière de gagner du temps, oui, d'augmenter les chefs d'inculpation au fur et à mesure. Pour lui infliger une peine plus grande. J'ajouterais juste que le mouvement de résistance de la population birmane est vraiment impressionnant, et qu'effectivement un des aspects les plus marquants de ces derniers jours, c'est ce rapprochement entre le CRPH et les groupes minoritaires, et un essai pour trouver une voie commune vers une libération
du peuple birman. Merci beaucoup, voilà. Bénédicte Braque de la Perrière. Merci également à nos autres interlocuteurs, Sophie Boisseau du Rocher et Frédéric de Baumy. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce, Emmanuel Sevin et aujourd'hui Romain Le Borgne à la réalisation. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Bonjour chez vous.
Venez participer virtuellement au festival.